colloque éthique en partenariat avec Web Radio Édition.
Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition du colloque éthique en partenariat avec Web Radio Édition. Comment résoudre la crise du logement? Voilà la question que l'on pose à l'occasion de cette nouvelle édition du colloque éthique. Tremblement de terre dans l'immobilier, le casse-tête du logement, voilà pour les thèmes des deux tables rondes que l'on vous propose ce matin. Si l'immobilier va pas très bien en France, on ira voir comment il se porte à l'étranger et quelles sont les raisons, pourquoi pas, d'aller investir sur place et notamment du côté de Dubaï. Sophie de Menton, bonjour.
Bonjour.
Je rappelle que vous êtes la responsable, la présidente du mouvement éthique. Vous portez donc évidemment ce colloque et vous nous expliquerez dans un instant pourquoi vous avez fait le choix de ce sujet justement. Avec nous également Loïc Quentin, bonjour.
Bonjour.
Président de la FNIM, la Fédération Nationale de l'Immobilier. À vos côtés, Benoît Santoire, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes président de la Chambre Nationale des Commissaires de Justice. Merci en tout cas à tous les trois d'être présents. Sophie de Menton, donc je réitère justement cette question. Pourquoi ce choix aujourd'hui de parler de l'immobilier et de la crise de l'immobilier?
Parce qu'en fait, je parle d'entreprise et qu'aujourd'hui, les chefs d'entreprise, toutes les crises les concernent et on est concerné par la vie en général. C'est d'ailleurs étonnant de voir à quel point les politiques dans tous les secteurs ignorent le monde de l'entreprise, parce que on est touché par absolument tout et on a souvent des solutions et en tout cas on sait exactement où sont les problèmes. Alors oui, pourquoi l'immobilier? D'abord, ça a une incidence incroyable sur le recrutement. Je vous assure que le nombre de chefs d'entreprise qui, quand ils voient un CV, regardent où le candidat habite. D'ailleurs, c'est terrible. À un moment donné, il y a même eu une indication de l'État. Je ne sais pas si c'était une obligation, mais je crois que oui, d'envoyer les CV sans l'adresse où on habite, parce que c'était discriminant. Et pourquoi c'est discriminant? Parce que quand vous avez un salarié, je salue au passage mon assistante, qui met une heure et demie aller, une heure et demie retour, tous les jours, et quand vous avez ça, vous savez que ça fatigue les salariés, qu'ils ne peuvent pas dépasser de un quart d'heure s'il y a un problème, parce qu'ils peuvent avoir un train, et donc c'est une problématique terrible. Et là, aujourd'hui, nos salariés ne peuvent pas se loger dans Paris. Et donc, le temps de transport est un élément fondamental pour l'efficacité des entreprises. Ça, c'est la première chose. Ensuite de ça, il y a la question de nos bureaux. Alors, on n'en trouvait pas. Maintenant, on en trouve trop. Le télétravail, on nous a balancé ça. On s'est dit, quelle horreur, il faut absolument réduire les mètres carrés. Et puis, finalement, on s'est aperçu que le télétravail, c'était pas la solution. En revanche, ceux qui habitent loin veulent du télétravail. On est complètement déséquilibré par les questions du logement. Alors, on dit la crise du logement. Je me demande s'il n'y a pas des crises du logement. Ça, c'est une chose. Et puis, par rapport à ça, pourquoi on a choisi aussi les commissaires de justice, parce que on a besoin, et les commissaires de justice sont les amis des entreprises. Alors quand on entend commissaire et quand on entend justice, on n'est pas forcément convaincu que ce sont nos alliés. Pourtant, ce sont nos alliés. Il faut faire appel à eux, en particulier pour plein de questions, dont le recouvrement de créances, etc., dont les loyers impayés. Et donc, aujourd'hui, il faut mettre à plat que devons-nous faire et quelles sont les solutions? Alors moi j'ai envie de demander déjà...
Allez-y.
Ah ben non, mais vous avez peut-être une question.
Non, mais justement, mais je pense que ça allait rejoindre ce que vous alliez demander finalement.
Allez-y,
parce que en préparant effectivement le colloque, Monsieur Quentin, vous m'avez rappelé que finalement, la crise de l'immobilier était derrière nous, mais la crise du logement, par contre, elle, était bien devant.
Oui, c'est une expression que j'ai utilisée à une conférence de presse du mois de janvier. Pourquoi? Parce que la dernière crise de l'immobilier, c'est 2009, qui est liée à la crise des subprimes. Et depuis 2009, les marchés n'ont cessé d'être accompagnés de deux mesures qui nous ont un peu plongés dans l'insouciance et puis l'indifférence. Premièrement, les taux d'intérêt partaient de 5,2% en 2009, ont atterri à 0,75% à juillet de 2022. C'est-à-dire que la baisse des taux d'intérêt a alimenté un pouvoir d'achat de façon artificielle. Le deuxième aspect, c'est que pendant toutes ces périodes, la France soutenait l'investissement locatif au travers de dispositifs tels que le Pinel et permettait d'alimenter la pompe de la construction neuve. Aujourd'hui, confrontés à cette hausse subite des taux d'intérêt, les marchés de l'existant ont connu des baisses extrêmement importantes de prix et chute des volumes de plus de 35%, passant de 1 169 000 transactions à moins de 800 000. Et les prix ont décéléré France entière entre 12 et 15% selon les territoires.
Alors concrètement, pourquoi ?
Pourquoi ? Parce que c'est lié directement à la hausse, la hausse des taux d'intérêt qui a été subite, qui a compromis.
Donc ça coûte trop cher pour les gens qui veulent acheter.
Bien évidemment, parce qu'avec la même mensualité, on a moins de crédit. Donc automatiquement, ça pèse sur le niveau des prix. Il y a une régulation automatique. Et je dirais qu'aujourd'hui, nous sommes maintenant après l'aspect conjoncturel. J'ai dit que après la crise de l'immobilier, donc on a vu effectivement une correction s'appliquer. C'est la crise du logement, parce que pendant toutes ces années, on a vécu de l'insouciance de l'organisation et de restauration des fonctions fondamentales de l'État, dans notamment l'accompagnement du logement, et aucune vision. Tout allait bien, les marchés se portaient bien, on vit finalement avec des volumes de transactions importantes, on perçoit des droits de mutation, les collectivités locales s'en portent bien.
Alors, je vous arrête là, parce que vous mettez le doigt sur quelque chose de très important. En même temps, nous dira-t-on et me dit-on, les secteurs d'activité réclament des aides de l'État. Est-ce que vous n'avez pas, dans le secteur immobilier, réclamé des aides de l'État ? Et faut-il... Alors justement, on parle de la loi Pinel, etc. Est-ce qu'il ne faut pas que, définitivement, l'État n'intervienne pas ?
Mais de toute façon, l'État n'a plus les moyens.
D'abord.
3 300 milliards
mais
de dettes,
ça, ça les gêne pas,
c'est,
hein.
C'est même pas pensable, il n'y aura rien, il faut trouver 40 milliards d'économies, c'est pas en réinjectant. Alors que... Je dirais de façon mesurée, l'État pourrait soutenir l'activité du bâtiment parce qu'il va falloir un moment ou un autre la soutenir.
Mais est-ce que c'est son rôle de soutenir l'activité ?
Non, quand on est libéral, on n'a pas besoin d'intervention extérieure. Simplement, on a mis un marché un peu sous perfusion, mais ça fait 40 ans qu'on l'alimente.
Bah oui, mais il faut s'arrêter un jour.
C'est difficile, de, notamment de se priver d'un dispositif de réduction d'impôts quand les marchés s'y sont habitués. Et aujourd'hui, aujourd'hui, il n'y a plus de Pinel. Qu'est-ce qui se passe ? Bah, la construction neuve est à l'arrêt. Mmh. Les promoteurs ne vendent plus.
Oui, mais il ne faut pas recommencer avec des subventions, enfin.
On est d'accord, mais aujourd'hui, elles sont stoppées. Donc, il y a quelques mesurettes qui ont été mises en place dans le projet de 2025. Et 2026 va être un exercice de vérité parce qu'il faut repenser une politique du logement. Et surtout, agir sur la réorganisation et la structuration du marché. C'est une crise structurelle. On ne sait plus construire du neuf. On ne sait plus comment on va rénover énergétiquement alors qu'on a des contraintes.
C'est votre boulot, ça.
Ah ben c'est notre boulot, mais bien évidemment, mais simplement quand c'est une réglementation qui a été imposée n'est pas compatible.
Vous voulez une politique de l'État, mais qui peut souhaiter une politique de l'État ? On sait que partout où ils interviennent, ça va pas.
Ah ben on peut souhaiter quand même. L'État est intervenu dans notre histoire et l'histoire du logement de façon extrêmement pragmatique, constructive et avec efficacité. Je crois que nous pouvons revivre des moments comme ça. Simplement, on a vécu dans l'insouciance, je le dis, et aujourd'hui il faut poser véritablement les choses sur la table et surtout avoir un exercice prospectif. Mais je vais même aller très loin. Plus loin, je cite deux phrases à chaque fois quand je parle de logement. La phrase d'Emmanuel Macron en mai 2023 sur le magazine Challenge. L'immobilier, c'est de la surdépense publique pour de l'inefficacité collective.
Ça démarre mal.
Et deuxièmement, une phrase de Patrice Vergriete, ministre du Logement, il faut sevrer l'immobilier de la drogue fiscale.
Ah, il n'a pas tort, si.
Il n'a peut-être pas tort, mais enfin, peu importe. On ne parle pas, je dirais, aux Français de cette façon, surtout aux opérateurs. Il faut avoir une prospective digne de ce nom, une projection.
Là, c'est laquelle ?
Et savoir où on va. Mais je crois que c'est...
Non, mais c'est à vous de me dire.
Non, mais de toute façon, aujourd'hui, il faut s'inscrire dans une politique de long terme, et que cette politique de long terme...
Mais comment peuvent-ils savoir ce que c'est qu'une politique de long terme dans le logement ? Expliquez-moi.
À condition de se rapprocher des acteurs et se rapprocher de la société civile. Chose qu'ils ne font pas aujourd'hui. La façon dont on fait la loi, dont on légifère, je dirais, c'est en méconnaissance et laissant les acteurs fondamentaux de côté.
Je
pense que le modèle de gouvernance va peut-être changer, on l'espère du moins, parce que nous ne pouvons pas continuer de naviguer à vue, tournant la barre une fois à gauche, une fois à droite. Il faut effectivement avoir un cap et suivre ce cap au moins sur un long terme.
Alors on va donner la parole quand même à Benoît Santoir. avec évidemment peut-être une question en préambule, parce qu'on a une image du commissaire de justice qui reste souvent associée à la notion d'expulsion. Et pour autant, ça représente qu'une partie infime de votre activité.
Ah oui, totalement. Sur les 3 800 commissaires de justice en France, vous en avez à peu près un tiers qui font une activité accessoire qui est l'administration d'immeubles et le syndic de copropriété. Donc il y a une vraie appétence pour le logement. Et c'est vrai que l'expulsion, c'est à peine 0,5% de notre activité. L'expulsion, aujourd'hui, on en parle beaucoup parce que c'est la fin de la période hivernale. Mmh. Donc c'était vraiment un sujet important ces derniers temps. Mais ce qu'on a remarqué, nous, de notre côté, c'est qu'effectivement, il y a une augmentation significative du nombre de procès-verbaux d'expulsion réalisés en 2024.
24 000, c'est
24 000. Ouais. Pour 13 000 en 2023. Donc c'est assez important.
Pourquoi ? Pour loyers impayés ?
Oui, pour des loyers impayés. Alors, il y a deux raisons à cela. Il y a un rattrapage lié au Covid, puisque, comme vous le savez, pendant le Covid, les tribunaux étaient à l'arrêt, les expulsions étaient à l'arrêt, et puis on a prorogé la période de la trêve hivernale. Et puis, il y a une crise structurelle, conjoncturelle, vous en avez parlé, monsieur Quentin, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a de vraies difficultés pour certains ménages. On a délivré plus de 180 000 commandements de payer les loyers en 2024, ce qui n'est pas rien. Heureusement, heureusement.
200 000 personnes, en gros, 180 000 personnes qui ne peuvent pas leur loyer.
Voilà.
Pendant combien de temps ?
Alors, cette période, elle va de 18 à 24 mois. Et puis, heureusement, il n'y a que 24 000 procès-verbaux d'expulsion réalisés effectivement. Le commissaire de justice, aujourd'hui, dans la loi Kasbarian, il a un vrai rôle de médiateur économique et de régulateur social. Il doit aller collecter ce qu'on appelle les données socio-économiques des locataires. C'est le premier à rentrer chez les locataires qui sont en difficulté pour collecter un certain nombre d'informations et finalement éviter l'expulsion et tenter de tout faire pour procéder au relogement des intéressés. Donc voilà, il faut mettre bien ça en parallèle. Près de 200 000 commandements de payés et heureusement seulement 24 000 procès-verbaux d'expulsion, même si on constate effectivement une hausse significative.
Et comment vous arrivez à éviter ça ?
Alors, justement, parce qu'il faut aller à la rencontre des personnes qui sont chez eux, comprendre un petit peu comment fonctionne le ménage, quel est l'endettement, et surtout proposer des solutions.
Justement, lesquelles, par exemple ?
Déjà, se mettre en rapport avec ce qu'on appelle les CAPEX, qui sont les organismes qui gèrent ces difficultés. Souvent, les locataires, si vous voulez, qui sont en difficulté de paiement, ne cherche pas à aller vers l'extérieur, vers le commissaire de justice ou vers un tiers de confiance. Donc, finalement, la procédure d'expulsion est lancée, engagée, et elle va jusqu'à terme parce qu'on n'a pas réussi à rentrer en contact avec la personne qui est en
difficulté. Ils n'ont pas d'argent. Ouais.
Oui, je sais bien. Mais il faut tout faire pour rentrer en contact ou les aider à rentrer en contact avec nos offices.
Et vous dites aussi qu'il faut restaurer la confiance entre bailleurs et locataires.
Oui, c'est une. Je le vois à mon niveau, à mon humble niveau. Effectivement, il y a une vraie difficulté aujourd'hui pour les bailleurs. On peut parler, par exemple, d'un exemple très simple, le cautionnement. C'est une vraie difficulté aujourd'hui. L'acte de cautionnement n'est pas un acte qui est uniforme. Il manque de lisibilité, de transparence, tant sur sa durée que sur son montant. Des mentions obligatoires qui n'existent pas, des mentions tapuscrites, manuscrites. L'impossibilité souvent de se porter garant lorsqu'on est loin de la zone ou du périmètre géographique du locataire. L'impossibilité d'effectuer une mesure conservatoire sur un acte de cautionnement, contrairement au bail.
Et est-ce que vous allez au-delà de ça ? Je suis en train de penser à un cas tout bête d'une jeune femme, d'un jeune couple, et on a fait des travaux dans leur immeuble, on ne sait pas lesquels, le propriétaire ne sait pas vraiment, etc. Et le résultat, c'est une infime vibration permanente et un espèce de bruit sourd, très peu, qui empêche de dormir. Enfin, ils ont tout fait. Ils n'ont plus qu'à partir, ils veulent plus payer leur loyer, enfin, ils se disent on ne va pas continuer, personne ne nous écoute, propriétaire ne sait pas, on ne sait pas très bien d'où peut venir le bruit. Par exemple, quelque chose comme ça, vous pouvez faire quelque chose ?
Aujourd'hui, ce qu'on appelle le constat de commissaire de justice, il a force probante devant le tribunal.
Ah, ça c'est
donc
bien.
Donc on fait de plus en plus, à la demande de bailleurs, parfois même de locataires, c'est vrai, des constats de conformité locative. Donc on s'appuie sur ce qu'on appelle les règlements sanitaires départementaux, qui sont différents sur le territoire, pour vérifier un certain nombre de points.
Le bruit, par exemple, ça rentre dedans ?
Par exemple, oui, effectivement.
Et vous arrivez, vous envoyez quelqu'un, il peut sentir vaguement la vibration ou le bruit qui démarre à 3h du matin ?
Aujourd'hui, vous avez des appareils qui permettent de mesurer le bruit, et notamment dans les grandes agglomérations comme Paris. C'est une vraie difficulté, le bruit, oui.
Donc vous êtes aussi un avocat des locataires pour pas mal de choses ?
Alors, un avocat, non, je préfère tiers de confiance. Et à travers le constat, qui est une preuve irréfutable, tant pour le bailleur que pour le locataire.
Loïc Quentin, quand on a préparé aussi ensemble ce colloque, on a évoqué évidemment le constat de ce qui n'allait pas bien, mais aussi, vous êtes là aussi pour assumer des propositions. Vous avez parlé par exemple de la portabilité des prêts immobiliers. Ça, c'est un début de solution aussi pour sortir de,
C'est un début de solution, disons que c'est une pratique qui a toujours existé.
Pardon, mais qu'est-ce que c'est que la portabilité des prêts immobiliers ?
Je vais vous expliquer. Tout simplement, imaginez que dans une période, vous avez emprunté à 0,78%, un des taux intéressants, et puis les taux remontent à 4%. Et vous êtes muté à Lille. Vous qui vous intéressez à la mobilité des travailleurs et mobilité économique, eh bien, vous êtes tenu de vendre, quand vous voulez vendre votre appartement de Lyon pour aller sur Lille, et vous êtes tenu de rembourser le crédit que vous avez contracté auprès de la banque. Et ensuite, vous voulez racheter à Lille, vous êtes exposé à des taux de 4%. La simple solution, c'est de dire, le crédit, il peut être portable, et notamment, c'est-à-dire que vous conservez le bénéfice de l'emprunt souscrit et que vous le reportez sur une autre acquisition, d'éviter un remboursement par anticipation. C'est une solution qui ne coûte rien aux banques françaises.
Compliqué, hein, les gens savent ça.
Mais c'est une proposition que l'on porte depuis plus de 2 ans, que refusent les banques, bien entendu, voilà, qui ne coûte rien. Voilà une solution économique, ça ne coûte rien aux banques, ça ne coûte rien à l'État. J'ai bon espoir que dans tous les cas, cette solution revienne rapidement sur l'actualité. Si nous sommes confrontés demain à une inflation généralisée outre-Atlantique et notamment qui obligerait à un relèvement des taux, il va falloir aussi faire attention, ce qu'on ne soit pas exposé à des situations où les taux d'intérêt repartiraient vite à la hausse. Ah oui. J'ai connu, moi, en tant que professionnel, les taux d'intérêt de 17%. Imaginez ce que ça peut être, quelle déflagration sur un paysage de l'immobilier. C'est la situation qu'on vient de connaître en 2 ans où les marchés ont été mis à mal avec une hausse subite des taux. Voilà pourquoi il faut prévenir une hausse des taux éventuels et permettre cette... C'est du législatif, oui. C'est du réglementaire. Mais je peux vous assurer, au moins, je suis sûr que c'est une loi qui serait transpartisane, parce qu'elle est très populaire, elle serait très populaire, et en même temps, accueille...
Et vous mettez bien... le point sur quelque chose d'important, parce qu'aux États-Unis, on perd un job, on en prend un facilement, et on vend sa maison, et on change d'endroit. En France, le salarié ne bouge pas. Alors, il n'y a pas plus de questions psychologiques ou familiales qu'il y en a aux États-Unis. A priori, peut-être une mentalité un peu différente, mais quand on cherche du boulot, on y va. En France, il n'est pas question, pratiquement jamais, de quitter Lyon pour aller à Lille. C'est quelque chose de terrible à cause de l'immobilier, la plupart du temps.
Oui, très souvent, oui, parce qu'effectivement, pour des ménages, c'est compliqué, effectivement, de notamment rembourser un crédit.
Pourquoi c'est si compliqué ici, et aux États-Unis, on vend sa maison, terminé, on en achète une autre.
Oui, mais en France, ça se passe aussi. Non, vous savez, les périodes de mutation sont des périodes extrêmement favorables aux transactions immobilières. Oui. Je dirais quand on a une stabilité économique, mais quand on est confronté à un dérèglement économique via les taux d'intérêt, bien évidemment, c'est plus problématique pour un salarié. Donc c'est quelque chose que... Le MEDEF ne nous a pas accompagnés dans cette solution. J'ai rappelé à Patrick Martin, j'espère qu'il le fera la prochaine fois, si une loi a été déposée. J'espère qu'une PPL sera déposée en ce sens, parce que je crois que c'est... Même si nous ne l'utilisons pas, c'est un dispositif porteur d'avenir. Il faut prévenir de ce qui peut se passer demain.
Et vous avez tout à fait raison, et je suggère au MEDEF d'être très concret et de s'occuper effectivement de tous les secteurs d'activité concrètement.
Ah, c'est ce qu'ils font, je crois.
C'est ce qu'ils essaient de faire. Pour l'instant, ils sont en conclave.
Ah, eux aussi.
c'est à la mode dans ce moment.
C'est à la mode.
Benoît Santoire, peut-être une question aussi, puisqu'on en est à parler de solutions et éventuellement. Vous portez-vous une proposition sur les locataires vulnérables, en particulier les plus de 65 ans et plus. Est-ce que vous pouvez nous en dire juste quelques mots là-dessus ?
Alors, je vous rassure, il ne s'agit pas de sortir du bail les locataires les plus âgés, non.
J'imagine.
Il faut sécuriser les relations juridiques entre le bailleur et le locataire. C'est vrai que lorsque vous avez plus de 65 ans et que vous avez un certain niveau de ressources, lorsque vous donnez congé à votre locataire, il faut lui proposer une solution de relogement. Or, souvent, le bailleur se trouve confronté à l'impossibilité de connaître effectivement les problématiques de ressources de son locataire ou le sait qu'au dernier moment, ce qui crée de vraies difficultés. Donc, il faut peut-être fluidifier cette problématique. Il y en a d'autres, comme par exemple le cautionnement, je vous en ai parlé, qui est un problème par manque d'uniformité sur le territoire. Le congé pour vendre aussi, qui est source de véritables conflits et difficultés. Les notaires ne cessent de nous le dire. Le congé pour vendre est souvent déféré devant le tribunal comme nul. Donc il y a des choses à faire au niveau juridique pour fluidifier les rapports entre bailleurs et locataires. Ça, c'est très important. Je constate, comme Monsieur Contin, on en parlait tout à l'heure, une inflation des normes aussi, qui crée de vrais problèmes, notamment au niveau énergétique. Ouais. Peut-être aussi, je pensais, créer un statut fiscal, on en a beaucoup parlé, du bailleur privé. Enfin, je crois qu'au mois de juin, on attend un rapport très attendu.
Un statut de plus ?
Oui, mais en tout cas, il faut en parler. Je crois que c'est Marc Jean Daubresse qui doit rendre un rapport.
Marc-Philippe Daubresse.
Voilà, Marc-Philippe Daubresse à Valérie Létard.
Avec un rapport ?
Sur, de manière générale, sur.
Parce
sur
qu'il faut sauver le parc locatif. Il faut sauver le parc locatif, il est en danger, vous l'avez dit vous-même.
Non, mais vous avez raison, et je crois qu'il faudrait beaucoup plus de souplesse. Pour, je veux dire, dès qu'on me dit qu'il faut créer un statut spécial et qu'il y a un rapport qui est rendu, je me dis qu'il y en a pour 3 ans et au mieux.
Non, parce que là, c'est pour la loi de finances 2026, pour le budget 2026, donc ça va être rapidement
ça,
opérationnel.
Bien, voilà, donc, et vous avez bon espoir.
Mais bien évidemment, puis il y a beaucoup de choses à faire. Vous savez, je crois que vous parlez de Paris, des collaborateurs qui ne trouvent pas de logement dans Paris.
Oui.
Je regardais l'évolution en l'espace de 12 ans. Le nombre de logements meublés à Paris est passé de 12 à 28,5%. Un tiers des logements locatifs sont de nature meublée à Paris. Mmh. Comment voulez-vous conserver une mobilité et notamment des collaborateurs sur site? Ils sont obligés d'aller chercher ailleurs ce qu'ils ne trouvent pas à l'intérieur.
Et comment expliquez-vous ça? Alors, donc, le fait qu'il y ait des meublés en location, ça veut dire effectivement qu'une famille ne va pas s'installer?
Mais non, c'est pas une attractivité
c'est
touristique,
oui, c'est
une attractivité fiscale qui est pointée notamment par l'investissement, d'où un statut du bailleur privé visant peut-être aussi à rétablir une fiscalité plus harmonieuse
entre favoriser. Donc c'est important que vous précisiez parce que tous ceux qui nous écoutent ne sont pas forcément au courant.
Voilà.
Donc c'est très intéressant quand on possède un logement de le louer en meublé.
C'est plus intéressant fiscalement aujourd'hui. Oui. Oui. Voilà pourquoi il y a une fuite et voilà pourquoi on a beaucoup de propriétaires se réfugient sur des niches et non pas sur ce qui est d'intérêt. Donc il faut restaurer et rendre, je dirais, et valoriser la location nue qui est indispensable
et
à,
alors
la mobilité,
là, comment on fait
à la mobilité résidentielle, notamment des personnes.
Bien sûr.
Et comment on fait bien évidemment, c'est de donner un avantage un peu plus fort ou restreindre l'avantage de ceux qui existent déjà pour arriver à avoir une harmonisation et un meilleur fléchage. C'est un combat politique, c'est une stratégie politique. Mmh. Or, je dis qu'on ne peut pas, vous avez raison, on ne peut pas vivre non plus. La fiscalité, elle est de pervers, qu'elle oriente un marché, très souvent, elle l'oriente mal, et notamment, elle conduit souvent à sa perte. Donc, il faut faire attention aux instruments.
Donc, votre conseil à Bercy est lequel ?
Et ce sera la dernière question.
Non, je n'ai pas de conseil spécialement à Bercy. Le statut du bailleur privé est quelque chose d'important qui, à la fois, touche l'aspect fiscal. Il faut relancer une construction neuve. Il faut redonner confiance à l'investissement dans la pierre en France parce que les Français n'ont plus confiance. Il faut résoudre la crise du logement locatif. 17% des étudiants abandonnent leurs études parce qu'ils ne trouvent pas de logement. Et enfin aussi, il faut restaurer les rapports entre propriétaires, je suis d'accord avec Maître Santoir, les rapports entre propriétaires et locataires, il faut un peu plus de justice et d'équilibre, et de compréhension, et notamment de sécurisation des rapports.
Et le conseil des commissaires de justice ?
Tout à fait, fluidifier les rapports juridiques entre le bailleur et le locataire.
Pensez concrètement aussi...
Concrètement, je vous l'ai expliqué, on parlait du cautionnement, c'est un vrai sujet, l'acte de cautionnement, mais pas que ces sujets, le bail de manière générale, le congé pour vendre, et puis il faut bien que vous vous rendiez compte aujourd'hui... Le congé pour vendre. Quand vous donnez congé pour vendre à votre locataire, ce dernier bénéficie d'un droit de préemption sur le logement. Or ce congé crée de véritables difficultés juridiques, il est souvent contesté. Donc le bailleur se retrouve dans l'impossibilité de vendre au moment où il veut le faire. Parce que son locataire va contester un congé qui a été mal rédigé. Donc ça c'est un vrai sujet. Et puis moi, ce que je vois, c'est qu'aujourd'hui, lorsqu'on est propriétaire, il y a toutes ces normes entre les diagnostics obligatoires, le permis de louer. Rechercher un locataire, ça devient de plus en plus compliqué. J'ai beaucoup de propriétaires aujourd'hui qui préfèrent finalement se séparer de leur logement que de le mettre en location. En province, c'est ce que l'on voit. Et là, il y a un vrai souci. Et de la même manière, on voit aujourd'hui des couples qui accueillent un deuxième enfant et qui ne sont pas en situation de trouver un appartement beaucoup plus grand. Qui vont donc faire une chambre pour les deux enfants au lieu d'aller chercher un appartement plus grand. Ça, c'est ce que l'on voit et ce à quoi on est confronté aujourd'hui.
Et c'est ça la crise du logement, qui n'a rien à voir avec la crise de l'immobilier. C'est structurel.
Comment résoudre la crise du logement, ça tombe bien, c'est le thème de ce colloque. Merci à tous les trois d'avoir participé à cette introduction. On va se retrouver dans un instant avec une première table ronde, tremblement de terre dans l'immobilier. Voilà, restez fidèles. On se retrouve dans un instant. À tout de suite, merci.
Colloque éthique en partenariat avec Web Radio Édition.